يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مفسرا حبل الله L'imam, le cheikh de l'islam, le grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit, lorsqu'il commente, explique, il définit qu'est-ce que le câble, la corde d'Allah, Azza wa Jal, dans son grand ouvrage, Minhaj al-Sunnah, c'est un ouvrage qui est en plusieurs volumes, qui est une réponse, une réfutation aux Rawafid. Les chiites, rafidites, et aussi Ahlul I'tizal, les mu'tazila. Et les rawafid, les shi'a, ils ont de l'i'tizal. Comme croyance, dans leur dogme, ils ont la croyance des mu'tazila. Donc il dit, rahimahullah, fussira habluhu bi kitabi wa bi dini. وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة اللي رحمه الله ابن تيمية que le câble, la corde d'Allah عز وجل a été défini, expliqué comme étant le livre d'Allah, la religion d'Allah, l'islam, la sincérité, son ordre, l'engagement pris auprès d'Allah, l'obéissance à Allah, le groupe, le consensus. Et toutes ces définitions, ces explications, sont rapportés d'après les compagnons et d'après les tabi'in, la génération qui vient après les compagnons, ceux qui les ont suivis convenablement jusqu'au jour dernier. Et toutes ces définitions, ces explications sont authentiques. فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْمُرُ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وذلك هو عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. Et toutes ces définitions, ces explications sont authentiques, c'est-à-dire elles sont véritables. Et aussi, comme on l'a vu précédemment, elles se rejoignent. Car le Coran ordonne de suivre la religion et d'entrer et d'être sur la religion de l'islam. Et d'être dans la religion de l'islam, voilà l'engagement pris auprès d'Allah, voilà son ordre et voilà son obéissance. Et d'être attaché, cramponné autour, tous ensemble, ne peut se faire qu'avec le groupe de la communauté. est la religion de l'islam et sa réalité même, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث et l'imam, le cheikh de l'islam, le grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, celui qui a revivifié l'islam au 12e siècle de l'Égypte, au 18e siècle du calendrier grégorien. Il a vécu pratiquement tout le siècle de 1700, du début jusqu'à presque sa fin. Il a vécu plus de 90 ans, rahimahullahu ta'ala. Et à son époque, la photographie n'existait pas. Les appareils de photo, les premiers à apparaître, c'est en 1800 et quelques, des décennies après lui. Donc ne vous faites pas avoir par des gens qui vous montrent sur le net des photos d'un bédouin en Arabie, en noir et blanc, une vieille photo, et on vous dit, voilà la photo de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le pire, c'est qu'il y en a qui y croient, ils ne connaissent même pas à quelle époque a vécu ce grand homme, qui est Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, et ils ne savent même pas depuis quand existe la photographie. Subhanallah. Donc ils prennent ce qu'on leur donne. Et il y en a, ils y croient. Ils croient qu'on a une photo du cheikh l'islam Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah. Ce qui n'est pas vrai. Donc, il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, en expliquant le hadith. Le hadith précédent, dans un cours précédent, on l'a vu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan » Allah, il aime pour vous trois choses et il déteste pour vous trois choses. Le hadith. Donc en explication de ce hadith, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit « Lam yaqa خلل في دين الله في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. Et il n'y a eu de mal qui touche la religion des gens ou de manquement qui touche la religion des gens ou leur vie d'ici-bas, si ce n'est à cause du délaissement de ces trois choses citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith ou certains de ces points. Voilà d'où viennent les problèmes qu'ont les gens, soit dans leur religion ou soit dans leur vie d'ici-bas. Ici s'arrête la parole de Cheikh l'Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Thalithan, troisièmement, qawluhu subhanahu wa ta'ala fi surat al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. La parole d'Allah, glorifié soit-il et élevé soit-il, dans la sourate, le prologue, l'ouverture, la première sourate du Mus'haf al-Fatiha, dans le sens des versets, dites-nous sur le droit chemin, vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. Imam, le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son ouvrage Ighathatul Lahafan, min masa'id ash-shaytan, il dit rahimahullah, hadha as-siratul mustaqim alladhi wassana Allah ta'ala bi-ittiba'ih huwa as-siratul ladhi kana 'alayhi an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam wa ashabuhu wa huwa qasdu as-sabil وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة
لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله وهذا كالطريق الحسي فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا وقد يجور دون ذلك ابن القيم رحمه الله دي Voilà donc le droit chemin, la voie droite dont Allah Azza wa Jal nous ordonne, nous enjoint d'entreprendre et de cheminer dedans et d'y être. C'est lequel chemin ? C'est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Voilà le chemin dont il est demandé de suivre et d'entreprendre. Et tout ce qui ressort de ce chemin, tout ce qui sort de ce chemin, fait partie des autres chemins déviants qui ont transgressé et qui ont outrepassé ce qui leur était demandé. Mais cette transgression, elle peut être grande comme elle peut être petite, minime, par rapport à ce qui l'éloigne du droit chemin. Bien que, le cheikh veut dire par là, bien que c'est un égarement, mais dans l'égarement, il y a plusieurs degrés. Il y en a qui sont bien plus éloignés de la vérité que d'autres, bien qu'au final, ils sont tous éloignés du droit chemin. Donc certains se retrouvent loin du droit chemin, et d'autres ont dévié, mais ne sont pas trop éloignés du droit chemin. Et entre cela, il y a plusieurs étapes et degrés qui ne peuvent les dénombrer, les connaître que Allah Azza wa Jal. Ceci ressemble aux chemins, les chemins qui existent, hein, les chemins qui sont, qu'on rencontre, qu'on entreprend, celui qui dévie d'une route, c'est soit il s'est éloigné beaucoup ou peu. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل وكل ذلك قد نهى الله عنه فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. Donc la balance de jugement pour connaître qui est sur le droit chemin, qui est sur la droiture de celui qui en a dévié, qui a transgressé, qui a outrepassé, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il n'y a que comme ça qu'on pourra le savoir. On connaît le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ce sur quoi était le prophète et ses compagnons, et là on va savoir qui sont les personnes réellement qui sont sur ce chemin, et de là aussi on va savoir qui a dévié, qui a outrepassé le chemin. C'est la seule balance pour pouvoir savoir qui est dans le droit chemin de celui qui ne l'est pas. Et ceux qui dévient, qui outrepassent ce droit chemin, soit c'est une personne qui est injuste envers elle-même et qui est négligent, qui a du relâchement, qui ne fait pas ce qui lui est demandé, ou alors c'est quelqu'un qui a fait des efforts et qui a mal interprété, ou alors c'est un suiveur aveugle, ignorant. Et tout cela, toutes ces situations-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a interdits. Et donc, il ne reste que le fait de se contenter et d'être rattaché à la sunna autour de laquelle on retrouve la religion. Et la religion, elle ne fait que tourner autour de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Ici se termine la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. فَمَنْ لَزِمَ السَّلَفِيَّةَ الْحَقَّ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ كَانَ وَسَطًا بَيْنَ فِرَقِ الْهَلَاكِ وَالضَّلَالِ إِذِ الْحَقُّ وَسَطٌ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ. Donc celui qui se cramponne, qui se rattache, qui reste sur la salafia véritable, avec connaissance, savoir, science et justice, il sera dans le juste milieu entre ces sectes égarées, perdues et l'égarement. Car la vérité est le juste milieu entre deux égarements. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب الغلو والتقصير. الإمام الأوزاعي رحمه الله il dit: il n'y a pas un ordre ordonné, demandé par Allah, élevé soit-il, sans que Shaitan vienne le contrer d'une de deux manières. Il se fiche de savoir par laquelle il va gagner et avoir gain de cause. L'essentiel pour lui, son but, son objectif, c'est de faire dévier la personne. Et il a deux manières de les faire dévier. S'il n'arrive pas avec l'une, il va essayer avec l'autre. Et quelle que soit la manière, il aura atteint son objectif. C'est quoi? C'est l'excès, l'exagération ou le délaissement et le relâchement. Et on va voir ça en détail. Il voit la personne comment elle est. Il voit quel est le point fort chez lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir du relâchement, du délaissement, ne pas trop faire? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une volonté et un courage de faire plus? Et il va l'attaquer là où la personne a de l'envie et de l'engouement. Là où il a de la facilité. Il va l'attaquer par ce point-là. De là où la personne ne le voit pas arriver. Subhanallah. Wa qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va détailler ici la parole de l'imam al-Awza'i rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim? وَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ إِمَّا تَقْصِيرٌ وَتَفْرِيطٌ وَإِمَّا إِفْرَاطٌ وَغُلُوٌ فَلَا يُبَالِي بِمَا ظَفَرَ من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah? Et il n'y a pas un ordre ordonné par Allah Azza wa Jal sans que Shaitan, le diable, essaye d'atteindre la personne par un des deux moyens, qui est soit le délaissement, le relâchement, le manquement, ou alors l'excès, l'exagération de faire plus. Et il se fiche de savoir par laquelle des deux il va l'atteindre, par laquelle des deux fautes il va atteindre la personne. Car il vient vers le cœur de la personne, dans le cœur de la personne, et il vient le sentir, c'est-à-dire à l'étudier, l'examiner, pour savoir comment il va le faire dévier. فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ تَقْصِيرًا وَفُتُورًا وَتَوَانِيًا وَتَرْخِيصًا أَخَذَهُ مِنْ هَذِهِ الْخُطَّةِ. S'il voit en lui du délaissement, du relâchement, remettre à plus tard les choses, chercher la facilité pour être épargné d'accomplir, alors il va le prendre par ce point-là. فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور. Alors là, il va l'encourager à rester ainsi pour ne pas appliquer, le faire asseoir pour ne pas agir, et il va le frapper par la paresse, la fainéantise et la fatigue. وفتح له باب التأويلات والرجاء. Il va lui ouvrir les portes de l'interprétation, hein, et de l'espoir et de l'espérance. Non, mais c'est pas grave. Allah, il va me pardonner. Il y a bien plus important que ça. Et ainsi de suite, plein de phrases et de réponses et d'interprétations qui vont le, comme si c'était une chose pour légitimer sa situation, pour rendre sa conscience tranquille, hein, pour avoir une conscience tranquille. Et être dans l'espoir, c'est-à-dire, eh ben, il va se rappeler à ce moment-là la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah il est pardonneur, et ainsi de suite. Il y a bien d'autautres moyens. Jusqu'à même que cette personne, elle peut atteindre un degré à délaisser toutes les obligations, complètement. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. Ah, mais s'il voit en lui tout le contraire de l'autre, qu'il ne peut pas l'avoir par le délaissement, il voit que c'est une personne méfiante, c'est une personne qui ne délaisse pas, c'est une personne qui a envie d'agir, d'accomplir. Rien ne le retient, alors là, il va lui demander, l'encourager à faire encore bien plus d'efforts et à plus agir et faire plus que ce qui est demandé. وَسَوَّلَ لَهُ أَنَّ هَذَا لَا يَكْفِكَ وَهِمَّتُكَ فَوْقَ هَذَا. Et il va lui faire croire, lui faire comprendre que ce qui t'est demandé ne te suffit pas à toi. Et que toi, cette force, ce courage que tu as, attend de toi bien plus. Tu peux faire plus. وَيَنْبَغِي أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْعَامِلِينَ. Et qu'il convient pour toi, pour ta personne, de faire plus que ce que font les gens. Ne te contente pas de l'agissement et de la pratique des gens. Fais plus que, dépasse-les. وَأَلَّا تَرْقُدْ إِذَا رَقَدُوا. وَلَا تُفْتِرْ إِذَا أَفْتَرُوا. Quand eux ils vont dormir, toi tu ne dors pas. Et lorsqu'ils vont rompre leur jeûne, toi tu ne romps pas ton jeûne. Tu peux tenir plus que ça. C'est comme s'ils lui disaient, toi tu as, eux ils attendent le moment de la rupture du jeûne. Mais toi tu peux encore attendre bien plus que ça. Et il va se donner des raisons. Donc, vous avez vu, subhanallah, on est face à des gens, les humains. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, est maître en la matière. L'étude de l'humain, subhanallah. C'est un savant quand il explique ces domaines-là, subhanallah, on découvre qu'est-ce qu'un humain. Et voilà la nature même de l'humain, et Shaitan, comment il entre en l'un, comment il entre en l'autre, subhanallah. Vous avez des gens qui n'appliquent pas, ils ne font pas d'adoration, ou très peu. Et de l'autre côté, vous en avez qui en font plus que ce qui est demandé. Et entre les deux, vous avez ceux qui adorent Allah, mais comme Allah le demande. Et ils font selon ce qui a été enseigné par le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salam, nous demande de faire la prière, n'est-ce pas? De lire le Coran, de jeûner, tayyib. Et en même moment, lorsque le prophète, alayhi salam, nous parle des khawarij, ils parlent de leur ibadah. Et les khawarij, eux, c'est cette deuxième catégorie de gens. Ceux qui sont touchés par l'excès, l'exagération. Donc le prophète sallam nous met en garde de ne pas se faire avoir par les apparences. De ne pas se faire avoir parce qu'il montre comme dévotion et adoration d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est clair que les gens, hein, ils sont attirés lorsqu'ils voient quelqu'un s'adonner dans l'adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, l'un d'entre vous va mépriser sa lecture par rapport à leur lecture. Ils liront bien plus que vous. Leur prière par rapport à leur prière. Lorsque vous allez voir le nombre de prières qu'ils font et comment ils prient la nuit, pendant que vous vous dormez, ils sont en train de prier. Subhanallah. Et vous voyez les gens, des fois, quand ils défendent les khawarij, ils disent, non mais lui, mashallah, il ne dort pas la nuit, il fait des prières, il est tout en lecture du Coran. Vous le voyez, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ça. Alors que les adorations, elles sont demandées, mais eux, ils outrepassent les limites. Ils en font bien plus. Et ça, à lui seul, n'est pas la balance de jugement. Est-ce que l'homme, il est sur le droit chemin ou pas? Mais comme on l'a vu tout à l'heure, la balance, c'est de connaître le chemin sur lequel était le prophète et ses compagnons. C'est que comme ça qu'on saura qui est dedans de celui qui n'est pas dedans. Subhanallah. N'est-ce pas que les moines chrétiens, dans leur monastère, ils sont à fond dans l'adoration. Ils se privent de beaucoup de biens de ce bas monde. Ils se privent des femmes. Et ils s'adonnent à l'adoration dans leur monastère. Mais ils font plus que ce qui leur a été demandé et d'une manière qui ne leur a pas été demandée. Subhanallah. Et tout cela. Et c'est pour cela, lorsque dans le récit de Omar ibn Khattab, radhiallahu anhu, lorsqu'il a vu ce moine, et il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé le verset coranique. Donc des personnes qui sont à fond dans la dévotion et l'adoration, pour au final se retrouver dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Regardez les trois hommes qui ont dit à l'époque du prophète, sallam, et à chacun a pris un engagement. Par quoi? Parce qu'ils ont minimisé l'adoration du prophète, sallam. Le prophète, il prie et il dort. Il jeûne, il rompt son jeûne. Il se marie avec les femmes. Eux, ils ont dit, on va faire plus que ça, nous. Et chacun a pris un engagement. Moi, je vais prier les nuits sans dormir. L'autre, il a dit, moi, je ne me marie pas avec les femmes. L'autre, il a dit, moi, je jeûne sans rompre mon jeûne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a rapporté ce qu'ils ont dit, il a réuni la communauté. Et il a dit, comment se fait-il que certains disent ceci et cela? Par Allah, je suis le plus connaisseur d'Allah parmi vous et le plus craintif d'Allah parmi vous et le plus pieux. Il leur cite une réalité. Allah lui a donné ces qualités. Donc il leur rappelle que vous ne pourrez pas dépasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je suis un homme qui prie et qui dort et qui jeûne et qui rompt son jeûne. Et je me marie avec les femmes. Que celui qui ne veut pas de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et Allah tabaraka wa ta'ala met en garde contre l'excès dans la religion. Et il nous parle de l'excès qu'ont eu les gens du livre. Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Ô vous les gens du livre, n'ayez pas d'excès dans votre religion. Et ne dites sur Allah que la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyakum wal-ghulu. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَلْغُلُوَ فِي الدِّينِ. Attention! Il y a l'excès dans la religion. Car ce qui a amené à la perte, ceux d'avant vous, c'est l'excès qu'ils ont eu dans la religion. Donc l'histoire n'est pas la quantité. Et là, ils pensent que ce qui a à retenir, la leçon à retenir, c'est de faire plus. Et là, ils croient que c'est une règle. Non! C'est la qualité. Et la qualité, elle est dans la conformité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la qualité. Et lorsque un homme a fait les deux rak'at avant le salat al-subh, la sunna du fajr, et il les a allongées, il les a fait longues. Et si je ne me trompe pas, c'est Saïd ibn al-Musayyib, un des grands imams des tabi'in, rahimahullah, il lui dit, il ne fait pas ça. C'est pas bon ce que tu as fait. Il l'a réprimandé. L'homme a dit, est-ce qu'Allah, il va me châtier parce que j'ai prié? Il a dit, non. Il ne te châtiera pas parce que tu as prié, mais il va te châtier parce que tu as contredit la sunna du prophète. C'est pour ça que tu seras châtié. Et dans la sunna du prophète, ces deux rak'at, on les allège. On ne les fait pas trop longues. Les deux rak'at sunna avant salat al-subh. Et lorsque l'homme au lieu de Dieu, d'attendre d'être à l'endroit précis enseigné par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se mettre en état de sacralisation. Il a dit non, je vais me mettre en état de sacralisation bien avant. Je serai en état d'adoration pour le pèlerinage ou la umrah bien avant. Pourquoi je vais attendre à tel endroit? Je vais le faire depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'imam Malik rahimahullah? Il lui a dit, j'ai craint pour toi le trouble. L'homme a dit, mais quel trouble? Ce n'est que des kilomètres, une distance que je rajoute pour mieux me rapprocher d'Allah. Et il lui a dit, je crains que tu touches ce verset. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son enseignement, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Oh un tel, penses-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Sache que ce qui n'était pas une religion à son époque ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir que par ce qu'ont réussi les premiers de cette communauté. Les enseignements religieux sont terminés, parfaits, complets. Il n'y a plus rien à enlever, ni à rajouter. Subhanallah. Et attention, et aux enseignants du Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole la plus élevée et la plus véridique. Sa récitation à elle seule est un acte d'adoration. Pour chaque lettre récitée, tu as une hasana. Une hasana multipliée par 10 pour chaque lettre récitée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien préciser qu'il est bien voulu chaque lettre de l'alphabet, il dit « La aqulu alif lam mim harf ». Je ne dis pas que alif lam mim est un harf, est une lettre. « Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf ». Chaque lettre toute seule, 10 récompenses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les meilleurs d'entre vous, les meilleurs des gens sont ceux qui enseignent le Coran et qui l'apprennent. Celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Mais ceux qui enseignent le Coran souvent sont pris par les gens pour des références. Et souvent, ils ne connaissent pas l'interprétation et l'explication du Coran. Ils le comprennent comme eux-mêmes veulent le comprendre, ou leur passion veut le comprendre. Et ils égarent les gens. Un lecteur de Coran, c'est un lecteur de Coran. Un imam de mosquée, c'est un imam de mosquée. Des mosquées, dans les pays musulmans, il y en a des milliers et des milliers. Et chaque mosquée, il y a un imam. Ça ne veut pas dire que c'est un savant. Du récitateur. La voix, il n'a rien fait pour la voix. Tu as une voix aiguë, tu as une voix grave, tu as une voix belle à entendre, tu n'en as pas une. Ça, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Tu n'as rien fait pour la voix. Tu as la voix qu'Allah il t'a donnée, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme ça qu'on juge. Il y en a, ils ont des belles voix, ils ne savent pas réciter le Coran. Mais les gens, tellement qu'ils sont attirés par sa voix, ils en oublient les règles de la récitation. Et ils pensent qu'ils récitent bien. Subhanallah. Donc, attention. Les règles de la récitation du Coran, elles sont là, elles sont simples. Ce n'est pas vrai ce que vous font croire certains. Pendant 10 ans, tu es en train de sortir une lettre. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existait pas à l'époque des compagnons. Et combien de populations et de peuples sont entrés dans l'islam? Et ils ont appris. Ils ne parlaient pas l'arabe. Vous croyez que les difficultés de prononciation n'ont jamais existé? Elles ont tout le temps existé. Mais c'était des choses simples. Et Allah, il a facilité la récitation du Coran, l'apprentissage du Coran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٍ. Le Coran, il a été facilité. C'est pour cela que le Coran, on trouve des populations, des gens, de pays, de nations, qui ne connaissent aucun mot en arabe, et ils mémorisent le Coran comme il est révélé. Donc, non. Il y a des règles, bien sûr, mais pas comme certains le font croire. Non. Et donc, Et souvent, ces récitateurs de Coran ou ces professeurs de Coran, parfois ils profitent de leur situation, de leur place pour égarer les gens. Et pour prendre les enfants des gens et les faire tomber dans des sectes égarées. Et chez les Khawarij. Et combien sont-ils nombreux dans cela? Même dans les pays musulmans, les organismes d'apprentissage du Coran, il y en a qui s'en servent pour autre chose. Il y en a qui disent cours de Coran, tu viens dans ce cours-là, il n'y a pas de cours de Coran. C'est un cours pour t'apprendre comment on se soulève contre le gouvernant. Voilà, on commence par apprendre le Coran, mais 5 minutes après, hop, ça bifurque vers le sujet qu'ils veulent. Attention, attention à cela. Et les jeunes qui disent « Non, mais je veux un chien tel que pour apprendre le Coran. » Tu n'es maître de rien du tout. Subhanallah. Arrêtez de croire que c'est vous qui décidez de la destinée. On est faible, fragile. Lorsqu'on commence à aimer quelqu'un, ça sera plus difficile de s'en détacher. Subhanallah. Donc, attention. C'est pour cela que certains, parmi les savants, lorsqu'ils ont écrit sur le Coran, les règles du Tajwid, les règles de lecture, de psalmodie du Coran, qui parlent sur les mérites, les bienfaits du Coran, et bien ils mettent dedans le chapitre sur les Khawarij. Parce que dedans, le prophète en a parlé, qui récite le Coran. Subhanallah. Il parle de cela. Et alhamdoukallah. Et regardez, l'assassin de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Le quatrième grand calife de l'islam, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mari de Fatima, radiallahu anha, le père de Hassan al-Hussein, radiallahu anhuma. Ce grand homme, Ali ibn Talib, celui qui l'assassine, c'est un professeur de Coran. Un professeur de Coran qui a été, comme on dit, vanté par qui? Par le grand calife de l'islam, le deuxième calife de l'islam, Omar Khattab radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu avait une bonne pensée de lui. Et lorsque Amr ibn al-As radiallahu anhu, gouverneur d'Égypte, avait besoin d'enseignants du Coran pour les enfants en Égypte, il a écrit au prince des croyants, Omar Khattab, envoie-moi des professeurs. Il lui a dit, j'en ai un. Si ce n'était toi, je l'aurais gardé auprès de moi. Et il l'a envoyé. C'est Abdurrahman ibn Muljim, qui plus tard sera dans les Khawarij, et qu'il ira assassiner Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Mais il faut se méfier, subhanallah. Il faut se méfier. Ce n'est pas une accusation sur toutes les personnes, non. Mais des fois, le mal, il vous vient de là où vous ne l'attendez pas. De là où vous ne le voyez pas arriver, subhanallah. Et ne vous attendez pas que quelqu'un vienne vous dire à l'avance, « Je viens pour t'égarer ». Naam.
وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيسا يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي أن تزيد على العاملين وألا ترقد إذا رقدوا ولا تفطر إذا أفطروا ونحو ذلك من الإفراط والتعدي.
Et plein d'autres choses semblables, des points, des sujets dans lesquels il va lui dire, lui conseiller, Shaitan, donc c'est cette personne, d'avoir de l'excès et de l'exagération et de outrepasser les limites. فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. Et donc ceci va amener la personne à être dans l'excès, dans le dépassement et à transgresser le droit chemin. À transgresser le droit chemin. كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. Comme la première dans sa situation, lui, cela l'amène à quoi? À être dans le délaissement, le relâchement, hein, sans atteindre et sans se rapprocher de ce droit chemin. Donc là, le droit chemin, il est là. À cause de son relâchement, de son délaissement, de sa fatigue, sa paresse, il ne va pas y aller. Et l'autre, il va y aller, mais il va le dépasser, l'outrepasser. وَمَقْصُودُهُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ. Et son but, son objectif de ces deux hommes. On parle de qui là? De Shaitan. Quel est son but, son objectif face à ces deux hommes? إِخْرَاجُهُمَا مِنَ الصِّرَاطِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. C'est de les faire sortir du droit chemin. Voilà son but, son objectif. هَذَا بِأَلَّا يَقْرَبَهُ وَلَا يَدْنُ مِنْهُ وَهَذَا بِأَنْ يُجَاوِزَهُ وَيَتَعَدَّهُ. Celui-là, en faisant en sorte qu'il n'y entre même pas dans ce droit chemin et qu'il ne l'approche pas, et pour l'autre, en le poussant à dépasser, à aller encore plus loin que ce droit chemin. وَقَدْ فُتِنَ بِهَا أَكْفَرُ الْخَلْقِ. Et la plupart des créatures ont été éprouvées par ça. Et la plupart ont été éprouvées par ça. وَلَا يُنْجِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا عِلْمٌ رَاسِخٌ. Ne sauve, n'épargne de cela, de ce problème, de cette épreuve, de ce trouble, de ce combat avec le diable, qu'une science ferme, forte. Il faut avoir la connaissance. وإيمان, et une foi. وقوة على محاربته, et une force pour le combattre. ولزوم وسط, et de se forcer à toujours rester dans le droit chemin qui est le juste milieu. والله المستعان, et c'est auprès d'Allah qu'on demande l'aide. On demande l'aide. C'est à Allah qu'on demande l'aide. Allahu al-musta'an, c'est-à-dire, et c'est à Allah qu'on demande l'aide. Al-musta'an, celui à qui on demande l'aide. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et à toi seul que nous demandons l'aide. Al-musta'an, celui à qui on demande l'aide. Allah azza wa jalla. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا وسطية أهل السنة في كتابه العقيدة الواسطية. Et le cheikh de l'islam ibn Taymiyyah رحمه الله clarifie et définit le juste milieu de أهل السنة, des adeptes de la sunna, dans son ouvrage العقيدة الواسطية. La croyance de Wasat. Wasat, c'est une ville. Wasat, c'est une ville en Syrie ou en Irak, dans la région de là-bas. Donc c'est une ville qui s'appelle Wasat. Un des juges de cette ville a écrit à Ibn Taymiyyah et lui a dit, avec tous les troubles et tout ce qui se dit maintenant, est-ce que tu peux nous résumer la croyance de Al-Sunnah pour qu'on l'ait entre nos mains et on puisse s'y attacher. Et il est dit que Ibn Taymiyyah a pris le papier et il a commencé à écrire entre l'Asr et le Maghreb. C'est une réponse à cet homme-là qui lui a fait la demande. Et on l'appelle Al-Aqid al-Wasitiyya. Parce que la demande, elle vient de la ville de Wasit. C'est pas Al-Aqid al-Madian. Ça, c'est Al-Wasitiyya. Ça, c'est Wasitiyya. Donc, c'est de la ville de Wasit. Donc, et dans cet ouvrage-là, qui est très important, il y a un accent qui est mis sur l'asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Il dit dans cet ouvrage, rahimahullah, il y a aussi les autres, d'autres fondements de Ahl al-Sunnah. Wa kadhalika fi sa'iri abwabi sunnati hum wasat, li annahum mutamassikuna bi kitabillahi. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ابن تيمية رحمه الله دي Et de même, dans tous les autres chapitres, les autres domaines de la sunna, Ahl sunna, ils sont dans le juste milieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont fermement rattachés. Ils se cramponnent au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus sur lequel étaient les premiers prédécesseurs parmi les sahaba de la Mecque et de Médine, al-Muhajirin et al-Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.